J'allais faire cela par vidéo, mais j'ai décidé de venir en personne. Suis pas très bon à plat. C'est un privilège d'être ici. Je veux remercier Dr. MacArthur et le ministère de Grace to You, qui a une grande importance dans ma vie au travers des années, pour l'opportunité d'avoir le ministère en ces conférences. De bien des manières, j'ai été façonné dans ma manière de prêcher en écoutant à la radio Grace to You, en écoutant John MacArthur. En tant que jeune homme, en sortant du séminaire, 10h30, Little Rock en Arkansas, écouter Grace to You, jour après jour après jour, écoutant comment la parole de Dieu était ouverte et expliquée par Dr. John MacArthur, et ses études bibliques, avec les références au travers des Écritures et le contexte, les introductions. Je suis en de nombreuses manières le produit de Grace to You. Je suis reconnaissant pour leur ministère dans le monde. Je cherchais un texte à partager pour cette conférence et pour demain soir de même, mais j'ai envoyé un email de staff à Grace to You pour avoir quelques directions, demandant leur pensée sur qu'est-ce qui serait le mieux pour avoir le meilleur impact avec l'auditoire. J'ai seulement deux cartouches d'argent à tirer. J'avais envie de tirer les meilleures cartouches possibles pour vous, cette audience à ces conférences, pour vous aider. Donc le message pour cet après-midi est Calvin critique les calvinistes charismatiques. Le titre, la critique de Calvin, qu'est-ce qu'il aurait à dire pour les calvinistes charismatiques de nos jours? Les gens qui embrassent complètement ce mouvement ou sont avec caution ouverts, pour ceux d'entre nous qui sont réformés dans notre théologie, ils sont vraiment reconnaissants pour les réveils de la théologie réformée qui s'est étendue au travers du monde, au travers de ces derniers précédents. Même dans le magazine Times a écrit récemment les 10 idées principales qui changent le monde. Et haute dans cette liste, c'était choquant de voir que le nouveau calvinisme est une des idées les plus principales qui forge notre monde. Et même Dr. MacArthur a dit, si vous n'êtes pas réformé, vous manquez de pertinence. Et j'ajouterai à ça, vous êtes dans l'erreur. Mais il y a vraiment eu une répandue de la théologie réformée dans les églises, dans les différentes dénominations, avec des leaders qui ont dirigé, comme Martin Lloyd-Jones, J.I. Packer, James Montgomery Boyce, R.C. Sproul, John Piper, le hôte de notre conférence, John MacArthur. Ces hommes ont montré un standard dans cette lignée d'hommes fidèles dans notre génération. Nous avons tous été sous l'influence de ces hommes, et peut-être même de tous ces hommes, avec des ministères très visibles, ont apporté cette torche de la réforme. Avec les ministères Légonier, Desiring God, Nine Marks et les maisons de publication, Banner of Truth, Crossway, Presbyterian and Reform, Reformation Heritage, Reformation Trust. Et le résultat a été un grand phénomène dans nos jours, identifié avec cette phrase, jeune, infatigable et réformé. Il y a même un livre qui porte ce nom. Cette génération est maintenant avec beaucoup de jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui sont dévoués à la théologie réformée, de christologie, de sotériologie. Et avec cette résurgence, ce retour de théologie réformée, il y a maintenant deux courants principaux qui se partagent. Il y a un flot historique, biblique, de vérité calvinique, et un autre courant qui est inattendu, c'est la théologie charismatique et l'expérience spirituelle. Un nouveau hybride qui est maintenant connu comme le calvinisme charismatique, qui tient fort à la sotériologie réformée d'un côté, mais aussi de l'autre à l'expérience charismatique et leur style d'adoration. Et maintenant, cette rivière avec ces deux courants a un courant qui attire de tous les côtés une génération entière de gens qui sont réformés, mais qui parlent en langue, qui parlent des paroles de prophétie, qui prétendent avoir de nouvelles révélations, des paroles de sagesse, des guérisons miraculeuses, leader d'un mouvement populaire réformé, quelqu'un, un leader qui est suivi, pas un fou, quelqu'un qui est brillant, qui est articulé, qui est visible, qui est connu. Et qui dit, je suis un de ceux qui disent que les signes et les merveilles et tous les dons spirituels de 1 Corinthiens 12, 8 et 10 sont encore valides de nos jours. Et que nous devrions aspirer fortement à ceux pour l'édification de l'Église. Et il dit ce que je veux dire par la compréhension pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit que Dr. Sproul a adressé, c'est que c'est la vue qui a besoin d'une expérience définie du Saint-Esprit qui doit être recherchée et connue après la conversion, quelque chose qui est différent de ce qui arrive avec l'habitation du Saint-Esprit lors de la conversion et qui est manifesté par une seconde expérience qui est parler en langue. Et encore, ce leader connu dit les signes, les merveilles sont un signe secondaire de la parole de Dieu et de sa grâce. Et on associe avec ça les miracles, la foi, les guérisons. Et dans le Nouveau Testament, on voit qu'on devrait s'attendre aux signes et aux merveilles jusqu'au retour de Christ. Et le même pasteur dit la liste des dons en 1 Corinthiens 12 qui inclut les miracles, les guérisons, les paroles de sagesse, les langues, je ne vois aucune raison pour que ces choses devraient être éliminées de l'expérience présente. Le don de guérison n'a pas cessé. Le don des langues est un don, et je ne sais pas si je peux argumenter qu'il y a quoi que ce soit qui ait changé. Un autre implantateur d'église connu a dit je sais que je suis un réformé, et pourtant le Saint-Esprit continue à faire des grands miracles, et des prophéties, des guérisons et des miracles, et je remercie le Seigneur pour le spectaculaire. Peu importe quand ou où cela arrive de manière authentique. Un autre théologien, pasteur, qui est vraiment connu pour son calvinisme charismatique et sa sotériologie, a écrit « Je commence à avoir des rêves prophétiques. Dieu me montre le futur. Un don de discernement me vient en quelque sorte. Pas tout le temps, mais je peux le voir. » Je peux voir quelqu'un et je connais leur histoire. De temps en temps, quand je prêche, je peux voir juste comme un écran en face de moi. Et je vois quelqu'un qui se fait abuser ou violer. Et je les trace et je peux leur dire, j'ai eu cette vision. Laissez-moi vous raconter. Et il prétend que tout cela est vrai. Ces positions théologiques ont mergé avec la communauté réformée tout en restant ignorés. Nous avons bienvenu tous ces gens, nous les avons reçus sans comprendre et adresser leur position sur le Saint-Esprit. Et je pense qu'il n'y a personne d'autre pour adresser ces calvinistes charismatiques que Jean Calvin lui-même. Alors, ce que je veux faire, je veux commencer avec la crise que Calvin a fait face. Calvin a fait face à la crise charismatique dans ces mêmes jours avec des gens qui prétendaient avoir des rêves et des visions, et parler de nouvelles révélations. Et je veux voir comment Calvin adressa dans son jour, dans ses commentaires, dans ses instituts, mais aussi dans le traité qu'il a écrit, le traité contre les libertins. Et on commence ainsi avec la crise que Calvin a fait face. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La crise que nous faisons face de nos jours, qui a été résumée par MacArthur, est une crise très similaire à celle de Calvin, qu'il a vu au XVIe siècle. En tant que leader de la Réformation, tout ce qui a confronté l'Église confronta Jean Calvin, car il était le chef de la Réformation. Il avait la voix principale, les gens le regardaient pour l'écouter, comment il adresserait les questions. Et Calvin fit face à la question charismatique avec deux groupes, avec les anabaptistes et les libertins. Et je veux parler pendant une minute sur ces deux groupes. Les anabaptistes, c'est un groupe complexe, large et divergent de beaucoup de sous-groupes, certains étant très très bons, certains ayant les mêmes vérités que nous chérissons. Les vérités qui enfantent les chrétiens de foi authentique en Christ, et des vérités comme le baptême qui doit être donné aux croyants. Ils avaient beaucoup de choses qui étaient vraies, mais aussi beaucoup de choses qui étaient fausses. Et certains éléments dans le groupe anabaptiste qui ont mené à une compréhension du Saint-Esprit qui était différente, cherchant des rêves et des visions, des expériences, et cherchant des révélations personnelles, et des rencontres mystiques, et des manifestations prophétiques, et des événements physiques, et des rencontres miraculeuses. Et Jean Calvin devait adresser ces questions de son jour. Et puis arrivèrent les libertins, et ils étaient pareil, sous l'ombrelle des anabaptistes, mais comme leur nom l'indique, ils étaient antinomiens. Ils abusaient toutes les libertés chrétiennes qui leur étaient données. Il suffisait de dire qu'ils étaient inconvertis, ne connaissaient pas le Seigneur, je pourrais dire même. Ils enlevèrent toutes les restrictions vers ce qui était juste et bon, et Calvin les appela 100 fois plus dangereux que l'Église catholique elle-même. J'étais dirigé par des impulses de la charnelle, ajoutant des révélations à relation aux Écritures. Ils étaient mécontents avec la simplicité de l'Évangile et avec la Bible. Et à cause de leur détournement de la Bible, voulant suivre les impulses intérieurs de leur cœur qui croyaient et qui pensaient être le Saint-Esprit, ils vivaient dans l'antinomiste, ce qui veut dire qu'ils étaient contre la loi et contre les commandements même de Dieu qui pour réguler leur vie chrétienne. Ils vivaient dans l'immoralité, pour le mettre en clair. Ils se séparaient. Ils ne comprenaient pas la séparation entre le bon et le bon. Ils étaient vulgaires, connus pour leur profanité, leur manque de raffinement dans leur chrétienté, leur immaturité. Et certains de leurs leaders dans les libertins se dressaient, s'habillaient avec des habits déchirés. Ils voulaient avoir le look grunge. J'ai l'impression d'avoir marché sur le pied de quelqu'un. C'était un spiritualisme hyper mystique. Il voulait avoir une voie morale facile sans avoir besoin de combattre le péché, de poursuivre la sainteté. Même Jean Calvin était l'homme pour parler et adresser cette question. Et il devait écrire, j'allais dire à MacArthur, lui aussi, non. Et il écrit la version de 1536, Chaos Charismatique, qui est le livre de John. Calvin fut l'homme. Je sais quand vous rigolez avec moi ou quand vous rigolez à moi. J'aime avoir cette relation avec vous ouverte. C'était Benjamin Warfield qui a dit que Calvin, c'était le théologien du Saint-Esprit. Toutes nos pensées de Calvin sur la préélection, la justification, la mort de Christ, il est connu surtout pour être un théologien du Saint-Esprit. Et Warfield, le grand prédicateur de Princeton, a dit la plus grande contribution théologique de Calvin est dans son développement de la doctrine du Saint-Esprit qu'il était le premier à donner. Ses instituts, son Magnus Opus, le traité de l'œuvre de Dieu, c'est un traité de l'œuvre de Dieu en tant que Saint-Esprit, en faisant connaître Dieu comme le sauveur de l'humanité pécheresse. Ce qui nous surprend, c'est que les charismatiques, la question charismatique de nos jours n'est rien d'autre que ce qui s'est passé avant avec les abus, les excès qu'on voyait dans le 16e siècle, qu'on va voir demain soir et plus tard. Et le même problème que les puritains firent face. Et Jean Calvin ne fut pas silencieux sur le ministère du Saint-Esprit. Plusieurs leaders réformés aujourd'hui qui sont ouverts aux pratiques charismatiques feraient bien de s'asseoir aux pieds de Calvin et d'être enseignés par lui. Je vais maintenant faire référence à la correction que Calvin a demandée. Au-dessus de l'histoire de l'Église, John Calvin se tient comme une des figures des individus les plus importants. Philippe Mélenchon l'appelait le théologien. Il était le théologien que Dieu avait donné à l'Église. Il était le génie théologique derrière la Réformation. Phil Shaft écrit « Calvin était un génie exégète de premier ordre et ses commentaires sont pas surpensés en originalité, en profondeur, en pertinence, en valeur. Il était le roi des commentateurs. » John Murray, le président de Westminster Séminaire, a écrit « Il était l'exégète de la Réformation et parmi les premiers exégètes bibliques de tous les temps. » Quelle serait la critique de Calvin de ce nouvel hybride du calvinisme charismatique? Ce que je veux faire, c'est lire des portions des commentaires de ses instituts et de regarder à son traité pour les libertins, envers les libertins. Et derrière moi, il va voir l'écran et ça sera plus facile pour vous si j'affiche ces citations visuellement en face de vous pendant que je les lis. Mais je veux regarder ces choses, une chose à la fois. Je veux regarder premièrement à l'office de l'apôtre Calvin. Dans son commentaire en Matthieu 10, verset 1, il y dit que l'office de l'apôtre est temporel, restreint pour le premier siècle. Ce n'est pas un office perpétuel ou qui continue. Et ceux qui disent dans les charismatiques qu'ils sont apôtres et qui continuent dans un apostolat ne peut être vrai. Dieu a donné les apôtres à l'Église pour qu'ils soient la fondation de l'Église, pour que l'Église puisse être bâtie sur les apôtres. Mais la fondation n'est bâtie qu'une seule fois dans un bâtiment au commencement, et le reste de l'édifice se repose sur cette fondation. Vous n'avez pas besoin de reposer la fondation pour le second, le troisième et pour le cinquième étage et mettre une autre fondation pour le plafond. C'est mis une fois au début, et Calvin comprit cela. C'était le rôle des apôtres. Il comprit que Dieu donna le don des miracles aux apôtres pour authentifier en tant que messager unique de Dieu la révélation qu'ils amenaient de Dieu et qu'ils avaient autorité sur l'Église en vertu de cette révélation qu'ils amenaient. C'est pour ça que Paul commençait ses apôtres en s'appelant Paul apôtre de Jésus-Christ, pour que les gens puissent connaître que ce qui était inscrit dans ces lettres avait une autorité apostolique divine et d'autorité pour l'Église de tous les temps. Ainsi, Calvin, merci pour cette personne qui applaudit tout seul. Non, vous n'avez pas besoin d'applaudir. Je sais quand vous faisiez semblant. Ok. C'était un de mes étudiants qui voulait une meilleure note. Ainsi, Matthieu 10, verset 1, Jean Calvin écrit dans ses propres paroles. Peut-être ça va être mis. Peut-être vous allez avoir dans un instant une parole de sagesse. Je vais le lire de toute façon. L'appel des apôtres est décrit pour nous, c'est propre d'observer cependant que Jésus ne parle pas d'apostolat qui est perpétuel, mais d'une prédication temporelle. Il continue en disant que la place des miracles, c'était pour sceller la doctrine des apôtres. Ainsi, Calvin, dès le début, en expliquant l'évangile, il mourra en prêchant une harmonie des évangiles. Il disait que les apôtres, l'apostolat était restreint pour ceux du premier siècle. Et il argumentait, ainsi les miracles étaient restreints au premier siècle comme validation du message qu'ils amenaient. Et Calvin mentionne la réception du Saint-Esprit en Actes 2, 38. Il écrit, nous ne recevons pas, en référence au don du Saint-Esprit, nous ne recevons pas ce don pour que nous puissions parler en langue, que nous devions prophètes, ou que nous puissions guérir les malades, ou que nous puissions faire des miracles. C'est donné à nous pour une utilisation encore meilleure, que nous puissions croire avec un cœur de justice et que nos langues puissent être formées d'une confession réelle. Le don du Saint-Esprit n'était pas pour parler en langue, mais pour que la langue que nous avons puisse confesser Christ comme sauveur de tous. Et il articule son cas. Et puis on arrive au don des miracles. Et il croit que c'était un don qui a cessé. Et lorsqu'on voit son ministère public, on voit que le don des miracles avait cessé pendant l'âge apostolique. Dans son intestitut, dans l'édition 1536. J'ai déjà mentionné cette édition, il y en a 5 versions. 5 versions des instituts de Calvin, la dernière en 1559, mais celle de 1536 était sa première. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a seulement été un chrétien pendant 2 ans. Et il a 26 ans. Et il écrit son magna opus. Il était un géant. Et alors qu'il écrit son premier institut, il écrit ses puissances miraculeuses et ses œuvres qui se manifestent, souvent dispensées par l'imposition des mots, a cessé. C'était un cessationniste. Et ils ont duré justement ce mot pour un temps, qui a été juste que la nouvelle prédiction de l'évangile et du nouveau royaume de Christ devrait être illuminée et agrandie par des miracles extraordinaires. Et lorsque le Seigneur a cessé de faire ces choses, ce n'est pas pour abandonner son Église, mais pour déclarer la grandeur de son royaume et la dignité de sa parole qui a été donnée. Et comme une fusée qui a décollé, comme une fusée qui décolle et qui laisse derrière le fuel et les compartiments qui vont avec, la fusée de l'Église a décollé, laissant derrière cet engin et la suprématie de la parole de Dieu, sa centralité, la centralité de la prédication de la parole reste au centre. Ça, c'est au début du ministère de Calvin. On avance rapidement à la fin pour sa dernière version, pour la préface. Au début de son institut, il écrit 5 années avant sa mort. En demandant des miracles de notre part, il réfère à Rome et d'autres groupes aberrants, ils actent avec déshonneur, car nous ne forgeons pas un nouvel évangile, mais nous retenons cet évangile réel dont la vérité et de tous les miracles que Jésus-Christ et les disciples ont fait pour confirmer. Mais comprenez la pensée de Calvin sur cela. Ces miracles ont accompagné la révélation du mystère que Dr. Sproul parlait, le mystère de Christ. Et une fois que le mystère fut révélé, il n'y avait plus besoin de miracles pour confirmer l'unicité de cette révélation. Est-ce que Calvin argumenterait, vous voulez que je fasse des miracles? Ou les réformeurs? Vous voulez qu'on parle en langue? Alors il faudrait un nouvel évangile. Nous aurons besoin d'une nouvelle révélation. Parce que sinon, il va n'avoir aucune manifestation spectaculaire parce que notre message est le même. Ce même vieux message, c'est la puissance de Christ dans l'Évangile. Calvin dit, prétendre à des miracles qui peut confondre les personnes. Et ils sont tellement insensés et tellement faux. Et dans son commentaire, en Marc 16, verset 17, à la fin de l'évangile de Marc, donc plusieurs d'entre nous ne croyons pas que c'est que fait partie du manuscrit originel, mais Calvin n'avait pas la révélation, n'avait pas l'information de la critique textuelle, mais Calvin avait discernement de voir que les signes qui allaient accompagner avec les gens parlant avec, et l'explication du parler en langue mentionnée, il explique, Christ ne dit pas qu'il entend, qu'il veut que ses dons demeurent, mais c'est plus probable que ces miracles furent promis seulement pour un temps, pour donner vent à l'évangile, alors qu'il était nouveau et dans un état d'obscurité. Je pense que le vrai design pour les miracles, l'intention, le dessein, c'était pour donner à la doctrine de l'évangile une évidence qui était demandée au début. C'était simplement pour un moment, au commencement. C'était donné par le Saint-Esprit à l'Église seulement au début de la construction de l'Église. Et à la fin de sa citation, il dit « Et ceux qui sont venus après eux, qu'ils ne devraient pas avoir à suivre ces choses, supposant qu'ils étaient destitués de ces miracles, guidés par une avarice folle, une ambition de forger pour eux-mêmes des miracles qui n'ont pas de réalité. La prétention de vouloir faire des miracles n'a aucune réalité de nos jours. C'est de la folie. » Et il continue à dire dans le même texte, en Marc 16, 17, « Ainsi, en parlant de ceux qui prétendaient parmi les anabaptistes et les libertins qui pouvaient faire des miracles, ainsi la porte fut ouverte pour les impostures de Satan. Une porte fut grande ouverte pour toutes sortes de fausses expériences. Non seulement cette délusion pourrait être substituée pour la vérité, mais sous le prétexte des miracles, les gens saints puissent être dirigés dans une mauvaise voie. Et Calvin dit, on n'a pas besoin de l'aide des miracles pour valider l'évangile que nous avons. Et ceux de son jour qui étaient piégés dans les expériences charismatiques, il leur dirait, vous ouvrez une boîte de Pandore pour votre église et pour ceux qui vous suivent dans votre ministère. Et souvent, un ministère de l'évangile court jusqu'au bord d'une falaise pour s'arrêter, mais seulement les gens qui le suivent souvent ne savent pas comment s'arrêter et tombent. Et Calvin donne un avertissement que lorsque les portes de délusion de Satan sont ouvertes et que les gens sont distraits par rapport à la vérité, ils vont se faire attraper par ce qui n'est pas autorisé ou qui a été produit par le Saint-Esprit. En Acte 14, verset 3, Calvin est très spécifique en enseignant sur le sujet. Acte 14, 3 dit, « Le Seigneur a donné des signes et des merveilles à être accomplis par leurs mains. » Et Calvin donne comme commentaire, « Dieu a donné évidence, témoignage de l'Évangile par les miracles. » Et c'est la vraie utilisation des miracles. C'était pour valider le message qui avait été amené par les messagers apostoliques. Et pour qu'ils ne soient pas attirés par des abus, Dieu leur donna sa parole, pour être dirigés par sa parole. Ça, c'est la pensée brillante théologique de Calvin. Ce qu'il dit, c'est que la parole donné de Dieu et l'Esprit de Dieu ne peuvent jamais être séparés. Ce que Dieu fait par l'Esprit, il le fait avec un lien mutuel avec l'Esprit et la parole. Et l'Esprit ne travaille pas indépendamment de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est l'auteur de la parole de Dieu, qui est l'enseignant de la parole de Dieu, et celui qui travaille en partenariat parfait avec la parole que lui-même a produit. Ainsi, Calvin dit, pour qu'ils ne soient pas amenés à un abus, Dieu ne leur a pas permis d'être séparés de la parole. Et puis, lorsqu'il parle des miracles à 14. Et Benjamin Warfield a écrit, il est raisonnable de demander des miracles, c'est John Calvin, ou de les trouver. C'est pas raisonnable de demander des miracles lorsqu'il n'y a pas de nouveau évangile. Car l'évangile suffit pour tous les peuples et tous les pays et tous les temps. Et ce que Warfield sait, c'est que Calvin comprenait que ce que Dieu a confirmé dans le premier siècle à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et dans le monde païen, comme Dr. Sproul en a parlé, c'est suffisant pour tous les temps, tous les pays, tous les lieux, toutes les générations. L'évangile de Dieu n'a pas besoin d'être revalidé. Concernant le parler en langue, Calvin écrit que le don des langues a cessé au premier siècle. Il écrit dans son commentaire, en acte 10, verset 44, il écrit « Le don des langues et autres pratiques similaires ont cessé il y a longtemps dans l'Église. Mais l'esprit de compréhension et de régénération est une force et continuera toujours à être une force. » C'est ce qu'il dit. C'est que le Saint-Esprit, dans le premier siècle, a donné le don des langues, qui a cessé depuis longtemps, mais le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre. Et Calvin nous donne sa plus grande attention par rapport à la réception de prophéties. Et on voit ça en Ésaïe 30, verset 1. Il dit, il faut être observé que il y a deux choses qui sont connectées, la parole et l'Esprit de Dieu. En s'opposant aux fanatiques qui veulent avoir des oracles et des révélations cachées sans la parole, des révélations privées sans la parole. Et Calvin leur dit, ce que Dieu a rejoint, l'Esprit et la parole, les fanatiques essaient de les séparer. Ils séparent la parole de la vérité et ils élèvent l'esprit au-dessus de la parole. Et j'ai été dans des églises où le pasteur, derrière le pupitre, s'est dit « Allez dans vos bibles, dans Matthieu, Marc, Luc ou Jean. » Et les gens baillent. Mais lorsqu'il dit « Je conduisais dans l'église, vers l'église, Dieu m'a parlé. » Et tout le monde écoute. Et les gens veulent l'écrire. Et Calvin dit, non, ce n'est pas la manière avec laquelle Dieu travaille dans son Église et dans ce monde. Et dans cette heure de l'âge de rédemption, dans son commentaire, dans Actes 21, verset 9, la même chose de révélation prophétique, il dit, cela veut dire, de la révélation prophétique, et j'aimerais juste ajouter, Calvin comprend la prophétie en deux levels, comme John MacArthur. Il y a la prédiction du futur et il y a la prédication basée sur la parole. En parlant de cette révélation prophétique, Dieu voulait rendre encore plus beau l'évangile. Lorsqu'il ressuscita des hommes et des femmes pour dire ce qui arrivait dans le futur, il y avait des prophéties qui avaient cessé pendant plusieurs années. Et tout à coup, la nouvelle voix de l'évangile vient avec des nouvelles paroles prophétiques qui allaient durer simplement pour un temps limité. Les fidèles devraient toujours attendre à quelque chose à venir. Mais si on dit aux gens qu'il y a une révélation à venir, ils vont vouloir ce qui est nouveau, ils vont être insatisfaits avec les révélations de Romains, de Jean et de l'Évangile. Mais Calvin dit cela n'est pas vrai. Calvin affirme dans cette révélation prophétique, cela devrait durer simplement pour un temps limité, pour que les fidèles ne soient pas poussés à s'entendre à quelque chose qui doit arriver encore et toujours vouloir quelque chose de nouveau. Car lorsque cette habileté et ce talent fut enlevé, il y eut encore beaucoup de personnes qui se vantaient d'être prophètes. Ils appelaient malades de cerveau. Dieu, en enlevant les prophètes, donc les nouvelles révélations, témoignait que la fin et la perfection étaient présents en Jésus-Christ. C'est une phrase remplie de richesse. La plénitude de la révélation pour l'Église de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ et par ses disciples qu'il a envoyés pour être ses apôtres. Et la plénitude de ce que Dieu veut que ce que nous connaissons a été donnée à nous. Nous avons finalement la foi qui devait être délivrée à tous les saints. Romains 12, verset 6, il continue à écrire sur ce sujet. La prophétie de nos jours dans l'Église de Christ n'a rien à voir avec la compréhension de l'Église. Car toutes les prophéties qui parlaient des révélations futures ont été accomplies en Christ et dans son évangile. C'est la consommation de la révélation pour son Église, la personne de Christ. Cela n'apparaît pas que Paul mentionne dans ce contexte les miracles. Il ne parle pas des miracles dans ce passage, mais simplement des dons ordinaires, ceux qui devaient être continuels et perpétuels. Les dons d'administration, d'enseignement, de miséricorde, ces choses continuent au travers de l'Église. Dans l'âge de l'Église, mais pas les dons miraculeux. Il dirait la même chose par rapport à Hébreux 1, versets 1 et 2. Lorsque Dieu parle des temps de la fin, que les gens ne devraient pas s'attendre à une révélation nouvelle. Car Jésus-Christ a amené la conclusion finale. Si vous voulez une révélation nouvelle, ça veut dire que vous pensez que Christ, ce qu'il a amené, était simplement un message partiel. Que Jésus-Christ manquait quelque chose dans son message et que ce que Jésus avait commandé à ses disciples pour toutes les nations, il y avait des trous qui doivent être maintenant remplis. Et ça, c'est la conclusion qu'on doit avenir. Et Calvin lui dit non. La révélation en Christ fut pleine. Il vint en tant que prophète parfait, le plus grand prophète, le plus grand expositeur. Et il enseignait cette vérité à ses disciples en leur donnant le mandat. Et il n'y avait rien d'autre à ajouter. Lorsqu'on arrive aux instituts de Calvin sur le même sujet, dans le premier livre, chapitre 9, section 1, Calvin a une section qu'il appelle les fanatiques plaident faussement au Saint-Esprit. Ceux qui ont abandonné les Écritures. Et il dit, ils ont abandonné les Écritures. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de Dieu de leur dire ce qu'ils veulent entendre, ce qu'ils pensent devoir savoir. Ils ne veulent pas étudier la parole et se présenter avec humilité dans la parole, sans honte, voulant recevoir, apprendre de Dieu. Ils veulent avoir les informations zappées dans leur cerveau, tout simplement de ce qu'ils doivent connaître. Il parle de ceux qui ont abandonné les Écritures, pensant qu'il y a d'autres moyens de rejoindre Dieu, que ce n'est pas simplement une erreur, mais c'est de la folie. Ceux qui ne prennent pas Dieu à sa parole sérieusement, ont des raisons pour être inquiets. Et ce qui se passe, c'est que ces gens sont remplis d'orgueil parce qu'ils exaltent l'enseignement du Saint-Esprit en méprisant ceux qui lisent et aiment la simplicité de la parole. Deux sections plus tard de cette même partie de ce traité, une de ces citations les plus importantes de Calvin sur ce sujet. C'est une section qui s'appelle « La parole et l'esprit sont inséparables et appartiennent ensemble ». S'il y a une chose à se rappeler de Calvin, c'est ce qu'on doit se rappeler. Par une sorte de lien mutuel, le Seigneur a rejoint ensemble la certainté de sa parole et de son esprit pour que la religion parfaite de la parole puisse demeurer dans nos esprits lorsque l'esprit brille, que nous puissions tourner à l'embrasse du Saint-Esprit sans crainte d'être déçus ou trompés lorsque nous reconnaissons en lui notre propre image, vraiment en sa parole. Dieu a envoyé son esprit pour confirmer sa parole et pour produire en nous la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et dans le livre 2, il dit, ce qui reste réel, c'est que la doctrine parfaite a mis fin à toutes les prophéties sur le futur. Tous ceux qui sont mécontents avec l'évangile sans avoir besoin d'ajouter quelque chose, ce n'est pas juste de vouloir ajouter quelque chose à la simplicité de l'évangile. Et alors, ils cherchent à aller au-delà de l'évangile. Il y a beaucoup d'autres citations, mais le temps serait mieux servi si on arrive à une conclusion. On a établi notre point principal. Je vous réfère à son traité contre les anabaptistes et ses libertins, dans lequel Calvin a des mots très puissants. Et on se demande pourquoi est-ce que Calvin ne peut laisser les libertins ou les anabaptistes seuls. Mais Calvin dit même un chien aboie lorsqu'il voit quelqu'un attaquer son maître. Comment puis-je être silencieux lorsque la parole de Dieu est attaquée? Il devait parler. Il devait utiliser son influence pour la répandre dans l'Église au large, pour la santé spirituelle de l'Église, pour qu'elle soit préservée. Je pense que vous pouvez comprendre ce que Calvin avait à dire. Que sa critique des charismatiques, de leurs abus dans leurs jours, peuvent être listés comme fous. C'est de la folie, c'est faux, il n'y a pas de réalité. Ça ouvre des portes pour les impostures de Satan, ça substitue la vérité pour la délusion, ça mène les simples sur une mauvaise voie. C'est bête, ça divise le lien entre la parole et l'esprit, c'est mortel et faux. Ça va au-delà de la parole de Dieu. Ça fait élever la colère de Dieu. Et ça laisse les gens, au lieu de laisser la parole de côté, poursuivre leur propre imagination. Pour Calvin, un charismatique calviniste, c'est un oxymoron. C'est une contradiction. Comme une brûlure de froid. Ou un académicien baptiste. Un méthodiste sauvé. Non, je rigole. Non, mais j'aimerais arriver à une conclusion ici. J'aimerais finir avec les convictions de Calvin. Trois convictions. Je vais vous donner beaucoup de citations, plus d'informations que vous, et de choses à lire que vous pouvez recevoir. Mais j'aimerais finir de manière simple. Qu'est-ce que Calvin dirait à notre génération actuelle? Et sa réponse est la même chose qu'il a dit à sa propre génération. Premièrement, l'exclusivité de l'autorité biblique. Il y a seulement un seul courant de révélation, la Bible, où il y a deux courants, la Bible et ses dons miraculés. C'est sola scriptura, avec un courant seulement, où il y a deux courants, deux sources. Et Calvin dit, les catholiques voulaient deux sources. Ils voulaient la révélation de Dieu et la tradition et l'autorisation papiste. Et Calvin dit, il y a deux courants, il y a deux sources. Les charismatiques, c'est la même chose. Il y a deux sources. D'un côté, il y a la parole de Dieu et le don des prophéties, de parler en langue et les paroles de sagesse et Calvin dit non, il y a seulement une source de révélation pour son Église. Au travers de tout l'âge de l'Église après le premier siècle, c'est sola scriptura, c'est la parole écrite de Dieu. Calvin a affirmé, nous devons estimer que la parole de Dieu est la source de toute révélation. C'est la plus grande valeur que nous avons. Il n'y a rien de plus grand que la parole de Dieu. Dieu multiplie et bénit son Église par la bénédiction qui passe par sa parole. C'est la même chose que Calvin dirait aujourd'hui aux calvinistes charismatiques. Il n'y a pas deux sources de révélation, il y en a une seule. C'est la parole écrite de Dieu. Deuxièmement, il dirait à cette génération la priorité de la prédication biblique. Calvin avait compris que lorsque nous avons deux sources, il y a le pupitre et la prédication diminuent. Lorsque nous avons une source, cela demande une prédication saine de la parole. Deux sources diminuent la puissance de la prédication, la rend superficielle. Ça érode la puissance de l'évangile, l'immerse. Il ne peut y avoir seulement une priorité de la prédication biblique dans ça. Lorsque les gens sont dévoués à une source de révélation. Et ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Finalement, et troisièmement, Calvin dirait à cette génération de charismatiques calvinistes, l'unité de l'esprit et de la parole. On en a parlé déjà. Calvin était convaincu qu'une source de révélation, la Bible, est joint avec l'esprit de manière tellement proche. Il n'y a rien de plus puissant. Et lorsqu'on a deux sources, ça sépare la parole et l'esprit de la parole, et deux sources de révélation divident et met une distance entre la parole et l'esprit. Lorsque l'esprit est à l'œuvre, c'est seulement lorsque la parole de Dieu est enseignée, est prêchée, est partagée, est expliquée. L'esprit travaille au travers de la parole. C'est ce que Jean Calvin a dit et continue à dire. Je crois que si Calvin est connu comme un des théologiens les plus connus, éminents de l'Église, un de ses influences les plus puissantes, je pense qu'on devrait écouter notre grand frère. Je vais laisser Jean Calvin avoir la dernière parole. Que les pasteurs, avec confiance et courage, continuent de se fier à la parole de Dieu, continuant d'en être les administrateurs, qui puissent se construire à la puissance, la gloire, l'excellence et la divine majesté de la parole, qu'ils joignent tous, des plus grands aux plus petits, qu'ils bâtissent l'Église de Christ, qu'ils puissent détruire le règne de Satan et tuer les loups et instruire en exhortant même les rebelles de faire tout avec puissance et tonnerre sous l'autorité de la parole de Dieu. Si nous voulons avoir une nouvelle réforme, si nous voulons avoir continué l'expansion de cette réforme de manière de plus en plus grande dans son Église et dans le monde, nous devons exclusivement être dévoués à la parole écrite de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on te remercie pour ce trésor de ta parole que tu nous as donné. Nous te remercions pour du début jusqu'à la fin, les 66 livres de Genèse à Révélation, Apocalypse, inspirés par toi, par des auteurs humains, plus de 40, de 3 continents différents et 3 langues différentes à tout niveau de la vie. Et pourtant, tu l'as donné de manière parfaite. Tu as présidé sur le processus qui a un seul corps de vérité, un seul chemin vers le salut, un seul plan pour les âges, un standard pour la moralité. Il n'y a pas de contradiction dans ta parole. C'est la vérité pure pour nous et tous ceux qui l'entendent. Je prie que tu puisses mettre une flamme dans nos corps et dans nos langues pour confesser le nom de Christ, pour le confesser, pour l'exalter. Et je prie que tu continues le travail que tu as continué dans notre âge. Et on prie dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur souverain. Amen.
We trust you're encouraged by what you've just heard. You've been listening to Grace to You. For more information about Grace to You, visit www.gty.org. That's gty.org. Or call 1-800-55-GRACE. Thanks again for your interest in Grace to You, where each day we're unleashing God's truth, one verse at a time.